Je suis avec un ami ici, là, c'est très excitant, alors je vais passer la nuit ici.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous?
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau? Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, l'émission double effet qui se coule de la soirée, 18h sur France Inter en avant-première et puis 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde ce soir. Une double séance avec nos invités, Denis Arcan qui revient au cinéma avec La Chute de l'Empire américain, troisième volet après le sexe dans Le Déclin de l'Empire américain, après la mort dans Les Invasions barbares. C'est l'argent qui est au cœur de ce thriller. Denis Arcan, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, un nouveau-né dans la grande famille du cinéma français, Nathan Ambrosioni, 19 ans, signe son premier film, Les Drapeaux de papier, du cinéma au plus près de ses acteurs. Un frère retrouve sa sœur après avoir fait 12 ans de prison. C'est un libéré sec, vous allez nous expliquer ça. Nathan Ambrosioni, bonsoir.
Bonsoir.
On est mercredi et tiens, Marion Guilbault nous a rejoint pour les nouveautés nouvelles, c'est-à-dire le meilleur des sorties albums à venir. Un jour d'avance.
Un jour d'avance, Laurent, mais toujours sur le signe de l'amour avec un crooner animal, Louis Aguilar, une amoureuse des rocks, Gemma Ray, et le funk absurde de Bureau du groupe Stat.
Et dans le NRV La Suite ce soir, trop bio pour être honnête. L'arnaque est-elle dans le prêt, Benoît Lagane?
Équitable et bio vraiment, Laurent? Oui, on va se poser la question avec nos invités en deuxième heure à l'occasion de la sortie d'un film documentaire, L'Illusion Verte, et d'une enquête, la publication d'une enquête sur le système alimentaire français. Acheter bio, à qui faire confiance? On en parle donc avec Manu Payet, le comédien qui donne de la voix pour le film documentaire L'Illusion Verte, le journaliste Frédéric Danlé, Stéphanie Pajot, agricultrice bio, et Julie Stoll, pro du commerce équitable.
Eh bien, le NRV, c'est 100% naturel ce soir, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Cinéma ce soir avec vous, Denis Arcan, La Chute de l'Empire américain, ça sort la semaine prochaine. Premier film pour vous, Nathan Ambrosioni, Les Drapeaux de papier, sorti en salle aujourd'hui. Vous vous souvenez, Denis Arcan, de la sortie de votre premier film dans les années 60, dans l'état dans lequel vous étiez?
C'est tellement loin.
Non, parce que je dis ça, parce que tout à l'heure, quand je vous ai présenté Nathan, en disant voilà, c'est son premier film, vous avez dit quoi?
Pauvre lui.
Pauvre lui.
Non, j'ai dit ça parce que j'ai pas vu le film et on ne se connaît pas, mais ouais. C'est juste que c'est un dur métier, réalisateur. Ouais. C'est un dur métier, c'est long et pendant tout le cours de ma vie, j'en ai vu disparaître. Qui ont fait un film, deux films, puis tout d'un coup, ils sont disparus. Et je suis sûr que ça vous arrivera pas.
Non.
Mais je vous dis ça parce que c'est un dur métier, parce que c'est long. Dans la durée, c'est long. Puis, je sais pas, des fois, il y a des gens qui ont... Il faut deux choses, en fait. J'espère que vous les avez. Il faut du talent et le tempérament. Et quand j'ai commencé, il y avait des gens qui avaient plus de talent que moi, mais moins de tempérament. C'est-à-dire qu'il faisait un film et il faisait deux dépressions nerveuses pendant le tournage. Et il a besoin d'un psy. Et ils avaient un talent fou, une imagination extraordinaire, une sensibilité merveilleuse, tout ça mieux que moi. Mais moi, j'avais le tempérament, j'étais calme, je pouvais travailler avec tout le monde, je respectais mes budgets, des trucs comme ça. Et donc, il faut les deux. Alors, il y a des gens... Puis si on a que le tempérament, mais sans talent...
Oh, bah alors là, non, ça s'arrête aussi. Je regarde Nathan Ambrosioni, je pense que les deux, le tempérament, ça j'en suis sûr, le talent, il suffit de voir le film pour s'en convaincre.
Formidable.
Nathan, vous avez 19 ans, alors bien sûr, ça paraît toujours un petit peu comme ça, une sorte d'événement dans le cinéma français... Ça veut dire que vous avez tourné le film, vous aviez donc 18 ans, et ça veut dire que pour l'écriture et le financement, vous aviez commencé à 16-17 ans ?
17 ans.
Wow.
Exactement, exactement. Et, ouais, et c'était un parcours, un combat, mais...
Oui, parce que vous venez pas du tout d'un milieu du cinéma.
Non, 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 pas du tout, je viens du sud de la France.
Oh non, ça n'a rien à voir.
Cannes, c'est dans le sud de la France,
alors,
Cannes.
Oui. Explication.
Non, ben, c'est pas grave.
Non, non, non. Non, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais le cinéma déjà existe moins à Grasse, ça
oui,
je peux vous le garantir.
Ouais.
Et mes parents ne travaillent ni l'un ni l'autre, ni ma sœur, dans le cinéma.
Donc ça veut dire que vous avez été quand même soutenu, j'imagine, par vos parents pour pouvoir accéder à travailler le financement du film. Enfin, je ne sais même pas comment on arrive à faire ça à cet âge.
Ils m'ont énormément soutenu et ils ont dès que j'ai commencé à faire des films avec mes amis, ils ont toujours été avec moi et ils m'ont toujours dit si t'as envie de faire du cinéma, essaie de le faire et travaille pour le faire. Et puis et ton bac, comme ça, c'est pas grave. Si t'y arrives pas, tu feras autre chose. Mais ils m'ont toujours soutenu. Et mon père, qui travaillait pas à ce moment, au moment où j'ai commencé à faire des films, m'a même proposé qu'on monte une association ensemble pour pouvoir assurer les gens sur le tournage. Mes parents ont vraiment été là, quoi.
Ça a été votre cas pour vous, Denis Arcand?
C'est totalement le contraire. Je l'écoutais en me disant, mon Dieu, qu'il est chanceux. Mon père méprisait le cinéma. Et ma mère aussi. Et donc, non, dans ma famille, tout le monde méprisait ça et trouvait que j'étais un raté. Et mon grand-père a dit à mon père, c'est quand même dommage de lui avoir payé des études. Ben, j'avais déjà mon bac. c'est quand même dommage de lui avoir payé des études et de le voir rendu là. Non, moi, c'est le contraire. Il y a personne qui m'a jamais encouragé. C'est exactement le contraire qui s'est produit.
Je crois même que votre père n'a jamais vu votre cinéma. Pendant des années.
Pendant des années, ça ne l'intéressait pas du tout. Enfin, il voulait pas voir ça. Mon père était un officier de marine. Et pour lui, le cinéma, c'était un passe-temps de chômeur. Non, c'est le contraire. Moi, j'ai fait ça parce que j'adorais ça, probablement, comme vous. Puis parce que j'ai eu la chance d'avoir un métier tout de suite où je faisais des documentaires. Donc, j'avais un salaire. Je gagnais ma vie en faisant des documentaires pour les écoles. Et donc, je suis entré au cinéma de façon complètement différente de la vôtre. C'est-à-dire, pas du tout en disant, je vais faire un film, il faut que je le fasse. Et ce qui est généralement la façon dont les gens commencent. Moi, j'ai commencé comme un tâcheron. avec un métier en faisant des films sur l'histoire du Canada pour les écoles. Ah. Et tranquillement, en commençant, j'ai adoré ça tout de suite. Donc, je me suis dit, là, c'est ça que je vais faire dans la vie. Mais, en fait, j'étais tellement heureux de faire même ces petits films-là que s'il n'y avait rien eu d'autre après, j'aurais été heureux quand même dans la vie. Puis après, j'ai fait des documentaires plus longs. Puis après, il y a quelqu'un, un hurluberlu, qui a dit, ben, pourquoi tu fais pas un film avec des comédiens, un film de fiction?
Et c'était là que c'est parti.
T'es sûr? Ouais. Elle a dit, ouais, non, je suis sûr, on va te financer. Et moi, j'ai jamais eu la moindre difficulté à financer aucun film, parce que je ne veux pas en faire. Et donc, il a dit, mais on va te financer, moi, j'ai une petite boîte ici, je vais faire ça et tout. Puis là, j'ai fait le film, et puis, je me suis dit, je vais retourner à mes documentaires tout de suite, ça marchera pas, c'est sûr, on va découvrir que je suis un imposteur et tout ça. Et puis, comble de malheur, c'était à l'époque où il y avait des bobines, là, vous avez pas ça, maintenant, de nos jours, ça va tout être bien sur une carte, etc., et tout ça. Moi, c'était des bobines. Et le film a été projeté pour la première fois au milieu de la France, Poitiers.
À Poitiers.
Et c'était un festival, j'étais très excité, c'était fabuleux. J'ai été invité à Poitiers, présenter mon film dans une ville que je connaissais pas. C'était la deuxième fois que je venais en France. Et alors, début de la séance, bobine 1, formidable, etc. Bobine 1 se termine, on coupe à la bobine 8. Et là, panique totale, c'est pas mon film, mais pas en ordre. Les bobines avaient été mal numérotées à Montréal, au laboratoire. Alors, je monte comme un fou, je cherche la boîte de projection, je tombe sur des armoires à balais, l'ascenseur, je rentre dans la boîte de projection, je parle au projectionniste, monsieur, je suis le réalisateur, je vous assure, il me prend pour un fou, ça me prend 5 minutes de le convaincre, j'ai arrêté tout, il faut tout reprendre. Là, il arrête tout, et là... J'essaye de trouver l'histoire de mon film, bobine par bobine, puis je me souviens plus de rien. C'est quoi la première image? La 4. C'est quoi la première image? La 5. Et puis là, je suis dans un état second. Finalement, je réussis à reconstituer les 12 bobines du film. Puis là, il dit, vous inquiétez pas, on va reprendre. Alors là, je dis, pas très bien. Il reprend, puis je reste dans la boîte de projection avec lui parce que je n'ose plus retourner dans la salle. Je suis déshonoré, je ne ferai plus jamais de film.
Ou que du cinéma expérimental.
Oui, c'est, je ne fais plus rien. Et donc, je lui demande, je lui dis, est-ce que je peux, est-ce qu'il y a une façon de sortir de la boîte de projection sans passer par le lobby, par la foule? Il me dit, oui, il y a un chemin, vous pouvez sortir en arrière dans une ruelle. Et là, je marche toute la nuit dans Poitiers parce que je veux pas rentrer à l'hôtel, il y a d'autres cinéastes à l'hôtel. Je suis déshonoré, je suis dans un état second, je marche toute la nuit, je vais jusque dans les banlieues de Poitiers. Et là, je me dis vers 10h du matin, là, les gens, non, ils vont être partis de l'hôtel, ça va être bon. Je vais repenser ma valise, je vais prendre le train, je vais rentrer à Paris, je vais trouver l'avion, je rentre au Canada et puis j'oublie le cinéma pour toujours. Et là, je rencontre un de mes amis tout d'un coup à 10h le matin. Et lui, il est dans l'escalier. Il me dit, t'étais où? T'as rencontré une fille, c'est ça? Est-ce qu'elle était vraiment bien? Je dis, non, t'es fou, voyons ce qui s'est passé hier. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Mais il dit, c'est formidable, ça a été un triomphe. Tu sais pas, tu t'en vas au Festival de Cannes. C'est quand même, moi, je m'en vais au Festival de Cannes.
C'était pour quel...
Ça s'appelait La maudite galette. Et il y avait Louis Marcorel, le grand critique du Monde, qui était là, qui a dit, je le prends la semaine de la critique, c'est sûr, c'est évident, etc. Et là, j'étais là, c'est pas vrai.
Tout était parti. C'est fou,
c'est vraiment dingue.
Voilà. C'est ça. Alors, c'est, ça, c'était ça, mes débuts. Donc, je vous souhaite les mêmes.
Ah, non, non.
Peut-être pas la crise avant, mais en tout cas.
Parce que vous, ça s'est bien passé. Vous avez eu un prix au festival
d'Angers.
D'Angers, là, premier plan, ouais.
Ouais, ça s'est hyper bien passé. On a commencé à montrer le film en octobre 2018. Et depuis, c'est que des belles choses, que des bonnes projections, qu'un bon public, qu'un accueil chaleureux. Donc c'est chouette, on espère que ça va continuer comme ça.
Et des bonnes critiques pour la sortie déjà aujourd'hui. Alors pour faire plus amplement connaissance, on vous a demandé à chacun des sons. Voici ce que ça donne pour vous, un son sportif, Denis Arcand. Balle de match, qu'est-ce que j'aimerais être commentateur.
Ça c'est quoi, Raphaël Nadal, ça je crois.
Je sais pas, ouais, peut-être.
C'est Nadal, ça.
Ouais, c'est ça, ce qu'on nous dit. Ouais, c'est ça.
C'est son son d'habitude quand il expire. Ah, parce que je suis un fanat de tennis.
Mais vous en faites?
Et j'ai joué beaucoup. J'ai joué toute ma vie.
Vous êtes
classé.
Vous êtes classé?
Oui, j'avais un classement canadien qui était A moins, mais c'est pas le même classement que français. Français, ça donne à peu près 15-15
oui,
ou quelque chose comme
ouais,
ça.
Ouais,
bon, tout, quelque chose. Un joueur de club, c'est tout. Mais bon, j'ai joué beaucoup et j'adore ce son-là parce que on. Là, évidemment, c'est pour ça que je vous dis Raphaël Nadal, parce que au son, le son de la balle sur la raquette, on sait la qualité du joueur.
Ça, c'est incroyable, je trouve.
On le sent. Et c'est fabuleux parce que vous pouvez être de dos, ou ça peut être derrière une forêt, ou une haie. Et là, on entend tam, tam, ce qu'on vient d'entendre. Là. Puis on sent le rythme, etc. Et on peut, c'est comme si on le voyait dans sa tête, ce son-là, il est unique.
Vous êtes plutôt fond de cours ou monté à la volée?
Ah, quand j'étais jeune, j'étais monté à la volée parce que c'était comme ça qu'on jouait à l'époque. Ah. Et puis là, maintenant, les raquettes sont arrivées, les nouvelles raquettes en composite avec les nerfs, comme surtout le fond là, que Nadal utilise en composite double avec deux natures de fils, de filets. Là, ça devient vraisemblable, on peut plus jouer à l'avant parce que la balle tourne tellement, et elle vient tellement vite qu'il faut tout le monde joue au fond maintenant, sauf si on peut, mais à l'âge où je suis rendu, j'arrive même plus à monter à la mi-court. Alors, j'ai obligé de me reconvertir en minable joueur de fond. Bon,
voilà. Un son générationnel pour vous, Nathan Ambrosioni.
Now, if you two don't mind, I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled.
C'est génial.
C'est quoi exactement?
C'est Hermione dans Harry Potter qui gronde ses camarades, Ron et Harry, et c'est ça m'a accompagné toute mon enfance, c'est-à-dire que mes premiers souvenirs au cinéma c'était pour Harry Potter. Et maintenant que quand j'ai commencé à me passionner pour le cinéma, j'ai continué à les regarder, et je peux les regarder en boucle et c'est en même temps un symbole du cinéma américain et anglais, des grosses productions anglophones. Et en même temps, je sais pas, ça m'évoque quelque chose de l'enfance et ça m'évoque quelque chose de tout le monde jouer à Harry Potter dans la cour. Et c'est vraiment, c'est mon enfance, ma génération à moi, c'est Harry Potter, c'est les baguettes magiques, c'est Avada Kedavra, c'est tous les sorts comme ça. Il y a un truc, je crois que c'est vraiment très générationnel Harry Potter.
Denis Arcand, vous, quel était le film?
C'est mondial parce que j'ai une fille de 23 ans, donc qui est déjà plus vieille que vous, mais elle aussi, c'est Harry Potter. J'ai jamais vu aucun Harry Potter.
Vous n'allez pas voir le cinéma?
Non, absolument pas, ça ne m'intéresse pas.
C'est vrai? Et quel était le cinéma de votre enfance, vous, alors, au Québec?
C'est le cinéma américain des années 50, les westerns, les films noirs, les trucs comme ça.
Mais pas du tout la génération Harry Potter.
Ah non, pas du tout.
On va se retrouver tous les trois dans quelques instants. Tout de suite, je vous propose d'écouter Leila McCalla. Elle joue de tout, du banjo, de la guitare, du violoncelle, tout ça pour diffuser son blues cajun dans le NRV.
Thank you.
The Capitalist Blues de Leila Makkala, une programmation friquée de Jean-Baptiste Audibert, et c'est de circonstances car on va parler argent, millions de dollars pour le nouveau film de Denis Arcand.
Rendez-vous.
Vous savez, l'univers de l'argent est infiniment vaste. Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards.
Le nouveau rendez-vous.
Simplement ici, à Montréal, les familles d'à peu près tous les dictateurs africains investissent massivement dans l'immobilier. Itno, Nguesso, Bongo, Compaoré sont tous ici. J'espère que vous n'êtes pas racistes. Le Canada est une terre d'accueil, comme le dit notre bon premier ministre.
Sur France Inter.
Oui, l'argent est au centre de votre nouveau film La chute de l'Empire américain. Denis Arcand, cinéaste, scénariste, acteur, producteur. Le Canada est vraiment une terre d'accueil, comme le dit votre bon premier ministre.
Ben dans ce cas-là, oui, parce que c'est une réalité. Ça, les familles des dictateurs africains mettent des sommes à l'abri des révolutions.
Au Canada.
À Montréal.
À Montréal.
Oui, c'est une bonne place à Montréal. Il y a plein d'énormes buildings qui se construisent, l'immobilier est en plein essor, etc. Donc voilà, un bel endroit.
C'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle pour
l'économie canadienne, voilà, c'est ça.
Denis Arcand, c'est bien sûr une vie de cinéma qui commence du côté de documentaires, certains engagés, nationalistes, puis la fiction arrive dans les années 70, la dénonciation de la corruption en 73 avec Rejane Pandovani, puis des succès énormes internationaux, le déclin de l'Empire américain 86, les invasions barbares en 2003, Oscar du meilleur film étranger, César du meilleur film, César du meilleur réalisateur, César du meilleur scénario. C'était du jamais vu pour un réalisateur québécois. Vous êtes devenu un héros national chez vous?
Pas vraiment, oui. Non, mais je veux dire,
je pense que oui. Il y a eu plein de prix aussi au Canada.
Oui, il y a des prix partout, etc. Mais quand on a des ennemis, ils en profitent pour dire « Oui, bah, c'est pas si important que ça. De toute façon, les Césars, il y a eu plein de mauvais films qui ont eu des Césars. »
C'est vrai.
Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le souligner.
Mais il y a aussi d'excellents films qui ont eu des Césars.
Voilà, c'est exactement. Vrai. Donc, c'est pas une règle. Mais ceux qui veulent dire du mal de vous en trouvent toujours des bonnes raisons.
Mais ça veut dire que vous avez eu beaucoup d'ennemis dans votre parcours de cinéma?
On ne va pas faire peur à ce jeune homme ici, mais on en a toujours, on en développe tranquillement au cours des années. Il y a des gens qui peuvent pas vous blairer pour toutes sortes de raisons, qui sont inexplicables. Mais bon, ben c'est comme ça, puis il faut vivre avec. Et c'est un petit peu dur de s'habituer à vivre avec. Nathan, il n'est pas encore habitué à ça. Mais je me souviens qu'entre autres, un jour, ma fille qui surfait sur l'Internet est tombée sur un chat room de gens qui disaient du mal de moi, mais qui disaient « c'est un con, c'est un crétin, il est vendu à la bourgeoisie », etc. Et elle, ça lui a fait un chagrin immense. Elle avait comme 11 ans, 12 ans. Vous savez ce que c'est maintenant? Bon, on en parle, c'est d'actualité.
Ah, partout, avec le harcèlement.
Avec le harcèlement que je lisais dans le journal ce matin.
Certains journalistes français, en effet.
Oui, voilà. Bon, ben alors, voilà. Elle dit que quand c'est nos enfants qui tombent là-dessus, c'est dévastateur pour elle. Elle a essayé d'entrer sur le chatroom en disant « Mais non, c'est mon père, il est pas si mal que ça, je vous assure, etc. » Mais c'est ennuyeux. On se fait une carapace, puis on vit avec ça, c'est tout, c'est pas grave.
Aujourd'hui, troisième volet, donc la chute de l'Empire américain. C'est un thriller. Pierre-Paul Daoust est livreur coursier dans une compagnie de livraison. Il signe particulier, il a un doctorat de philosophie.
Oui.
Et pour autant, il est livreur coursier. Et sa vie va basculer le jour où il devient le témoin de hold-up. Et plus que le témoin, puisqu'en fait, quand tout le monde va mourir, il se retrouve tout seul avec des sacs bourrés de dollars. Il y en a pour des millions. Alors, bien sûr que sa vie va changer, parce qu'il ne va pas rapporter l'argent. Sinon, il n'y aura pas de film. Hein. Ça va s'arrêter comme ça très, très vite.
C'est ça.
Les gens qu'il rencontre aussi, ça va changer. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a du fric? Eh bien, on convoque une escort girl, la plus demandée de Montréal. Une fille qui se révèle être d'ailleurs très au fait du pouvoir, de l'argent et des placements. Et puis, on rencontre un avocat d'affaires assez retors, un ex-motard tolard pour blanchir l'argent, et j'en passe, bande-annonce.
Campi ! Campi !
Bonjour, monsieur Bigrat. J'ai besoin d'aide, j'ai vraiment trop d'argent.
On va commencer par savoir de combien d'argent tu parles.
C'est deux gros sacs de sport remplis de cash.
T'as pas de bon sens, le gaulliste.
T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi.
Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements, tu t'achètes pas de voiture.
T'as vu trop de films, toi.
Je suis pas un avocat, moi je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord l'argent.
La boutique où il y a eu le hold-up, la caisse de dépôt de la gang de l'Ouest, c'est pas des enfants de cœur.
Where's the money?
Pourquoi vous me dites tout ça?
Pour que vous sachiez à quoi vous êtes mêlé. La personne qui l'a volé va se faire descendre tôt ou tard, c'est une question de temps.
La police, c'est le gouvernement. Il est toujours là pour te nuire. Tout le monde sait ça.
J'ai l'impression que jusqu'ici dans la vie, vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher.
Gâcher quoi? Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins, j'aurais essayé.
Denis Arcand, le héros, disons le personnage principal, est un diplômé de philosophie qui se retrouve livreur coursier. Ça vous permet de dire quoi? Que l'intelligence ne suffit pas? Qu'il faut aussi du tempérament?
Ça veut dire plein de choses. D'abord, ça veut dire que les baby boomers occupent toutes les positions. Et donc, il a un doctorat, mais les places sont toutes prises à l'université, dans les grands collèges, etc. Le mieux qu'il peut espérer, c'est d'être chargé de cours à temps partiel. Et être livreur, c'est plus payant. Donc, il a choisi livreur par défaut, mais puis il vit dans un petit appartement rempli de livres. C'est un peu un mésadapté, mais en même temps, il est très intelligent. Et il est assez intelligent pour savoir que quand il ne connaît pas quelque chose, les crétins, ils savent toujours tout. Ils savent. Lui, il sait qu'il ne sait pas. Donc, il est en possession d'argent. Il faut qu'il trouve des gens qui connaissent l'argent. Et donc, il va à la sortie de prison chercher un gars qui sort de prison qui faisait du blanchiment d'argent. Et lui dit, aidez-moi, j'ai trop d'argent. Donc, au début, le gars veut pas, puis il gagne sa confiance. Et puis, c'est ça, c'est une escorte super de luxe, la plus chère de Montréal. Elle a eu des amants banquiers, etc. Donc, elle aussi était habituée au commerce
des
de l'argent.
Des hommes politiques aussi.
Et des hommes politiques. Et là, ils forment une petite équipe. Et là, il va falloir qu'ils essaient de sortir l'argent du pays, ce qui est toujours le problème des bandits et les problèmes des compagnies tout à fait légales, d'ailleurs. C'est ne pas payer d'impôts. Donc, ils essaient d'échapper à ça. Et on raconte pas la fin.
Non, on raconte pas la fin, parce que bien sûr, il y a quelque chose de très surprenant. Juste un mot sur le personnage justement de l'escort girl, qui change un petit peu de ce qu'on peut voir généralement dans ce genre de film. Une fille particulièrement au fait de tout ce que peut être le trafic d'argent. Vous êtes documenté sur le sujet, vous avez rencontré, je ne sais pas, des escort girls de ce niveau-là?
Oui, je n'ai rencontré qu'une, en fait, il y a très longtemps. Je faisais un documentaire, justement, dans un de mes documentaires politiques. J'étais à Ottawa, capitale du Canada, une ville sinistre, d'un ennui mortel. Et j'étais au bar d'un hôtel parce que j'attendais le soir, il fallait que je filme la reine d'Angleterre à un banquet. Elle visitait ses sujets au Canada. Et donc, j'attendais. Et il y avait un match de football, le football américain, mais joué au Canada. Et donc, il y a une fille sublime, une noire, qui est assise au bar près de moi, et qui ne comprend pas les règlements, parce que les règlements du football canadien sont légèrement différents du football américain. En Alabama, le football, c'est une religion. Et donc, elle commence à me parler, en me disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Etc. Donc, on engage la conversation, on parle de football, on parle, le match dure 2 heures. Et là, je comprends à mi-mot qu'elle vient 2 mois par année au Canada, au printemps et à l'automne, et c'est le Parlement du Canada qui siège à Ottawa, et que les députés, particulièrement les députés protestants de droite du Canada anglais,
sont ses clients,
adorent les Noirs de l'Alabama, parce qu'ils fantasment sur ça depuis toujours, et ils sont ses clients, et elle fait un fric fou en 2 mois au Canada. Et là, ma papa, elle m'explique comment... parce que son grand problème, c'est où placer son argent. Puis elle me demande si je connais bien la bourse et quelles sont les compagnies dont j'achète les actions, etc. Et tout ça. Et c'était un personnage hors du commun et fascinant. Et je me suis toujours dit, un jour, il faut que je fasse un film où cette femme-là apparaît. Et j'ai jamais eu l'occasion avant, dans mes autres films, il n'y avait pas de place pour elle.
Il y avait du place pour le sexe.
Il y avait des places pour le sexe, mais pas ça.
C'est pas ça, oui.
Parce que
c'est autre chose.
C'est
là.
Pas de ça dont on non. parlait tout à fait dans la conversation. Mais en même temps, je me disais, bon, des prostituées au cinéma, on en a vu des centaines. Et c'est toujours le cliché de Pretty Woman. Elle est dans la rue, mais elle est merveilleuse, puis elle a un cœur d'or, etc. Puis où Mélina Mercouri sur le port d'Athènes, et bon, tout ça. Mais là, ça, on n'a jamais vu ça. C'est une fille qui parle d'argent, qui connaît tout le monde, qui connaît probablement le ministre de la Défense du Canada et des gens comme ça et tout. Et puis là, je me suis dit, bon, alors voilà, mon héros, il a soudainement 12 millions de dollars, il vient de rompre en commençant le film avec sa petite amie, il est seul, il s'ennuie. Et là, il va faire une faute, parce qu'il fait pas beaucoup de fautes, mais celle-là, il l'a fait parce qu'il résiste pas. Surtout que en plus... elle a choisi un nom de travail qui est Aspasie, qui était une disciple de Socrate. Alors lui, il était
agrégé de philosophie.
C'est irrésistible. Il communique avec elle par Internet. Elle arrive. Et là, quand elle sort, les policiers sont à la porte et ils disent « Elle coûte trop cher pour toi ». Et donc, à partir du moment que ça s'est arrivé, les policiers savent que c'est lui, sauf qu'ils sont pas capables tout de suite de le prouver parce qu'il a caché l'argent. Donc là, la poursuite infernale s'engage.
S'engage. Alors, si vous avez rencontré donc une prostituée de haut vol et presque avec une mentalité de trader à l'époque, les ex-tolards, les ex-motards, alors, ça vient d'où ça? Là aussi, la documentation sur le vif?
Oui,
ah ouais, c'est vraiment, en fin de compte, c'est un travail de documentariste. Vous continuez.
Oui, oui. J'ai toujours fait ça toute ma vie. C'est pour ça que je fais un film seulement tous les 4 ou 5 ans. Parce que ça me prend un temps fou.
Oui, vous n'êtes pas Woody Allen, quoi.
Non, pas du tout. Mais Woody Allen...
C'est un film, oui, c'est un film par an, oui.
Oui, c'est ça, mais ça dépend du... Il n'y a pas de règle pour faire du cinéma. On peut faire du cinéma de toutes les façons possibles. Woody Allen, il parle toujours de lui. Il n'a qu'un sujet, c'est lui, ses fantasmes, ses ex-femmes, c'est le monde qui l'entoure, etc. Moi, en général, j'ai plutôt tourné vers le monde extérieur. C'est les aventures que je veux avoir avec des policiers, avec des call girls, avec des financiers, avec toutes sortes de monde. Donc ça, il faut que je me documente et ça me prend du temps.
Et donc, alors, les ex-tolards?
Alors voilà, c'est qu'un jour, j'ai une amie qui suit des cours de marketing sur Internet à l'École des hautes études commerciales de Montréal, qui est un des départements de l'Université de Montréal. À côté d'elle, il y a un type cheveux poivre et sel, costaud. Il prend des notes encore à la main. Alors que tous les jeunes, ça va être des traders. Et ils sont tous en complet veston ou en truc Armani ou je sais pas quoi. Puis ils ont tous des ordinateurs et tout ça. Puis lui, il détonne. Puis elle le regarde et elle se dit... Mais je le connais, je l'ai vu. J'ai vu sa photo quelque part. Puis là, il s'en souvient, il fait une recherche, etc. Et c'est un type qui a été condamné à 8 ans de prison pour avoir lessivé de l'argent des motards. Et donc, c'est une réalité. Et après, moi, je vais en prison pour me demander comment je vais tourner la sortie de prison, justement, de ce type-là. Et là, je parle au directeur de prison qui me dit « Ah oui, 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 vous parlez du cas d'un tel. Oui, mais bien sûr, oui, oui. » Non, non, il avait écrit au ministre de la Justice, disant « J'aimerais faire mon baccalauréat en sciences de l'administration. » Et puis le ministère de la Justice a dit oui, c'est exceptionnel, etc. Et comme les Hells Angels, parce qu'il s'agit d'eux, sont des prisonniers extrêmement précis et calmes en prison, parce qu'ils sont, c'est des hommes âgés, ils ont en général plus de 50 ans, ils sont là pour faire leur temps, comme ils disent, ils veulent pas d'ennui. Et c'est des prisonniers modèles. Comme disaient les acteurs de la prison, si je n'avais que des Hells comme clients, parce qu'ils parlent de leurs clients comme un, comme si c'était un hôtel. C'est ça. C'est, notre vie serait un paradis. Parce que les ennuis qu'ils ont, c'est avec les têtes brûlées, les jeunes, bon, tout ça. Et donc, lui, il a fait ça. Donc là, comme ça, j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis de rencontrer du monde qui faisait ça, exactement. Puis, comme en plus, bon, je suis vieux et cinéaste depuis longtemps. J'ai comme une réputation et les gens savent que je suis pas journaliste, donc ça va pas être dans le journal demain matin. Ça va pas être une dénonciation. Ça va se retrouver 4 ans, 3 ans plus tard dans un film joué par un comédien dans des circonstances différentes.
Donc les gens se laissent aller.
Les gens se laissent aller à parler, à des confidences, à parler, tout ça. Donc c'est comme ça que je bâtis mes scénarios.
Vous, Nathan Brosionnet, on va parler tout à l'heure de votre film. Il y a aussi une sortie de prison. Ça commence derrière comme ça. Vous êtes allé vous renseigner aussi comment ça se passe ou alors simplement...
C'était pour le coup, moi j'avais aucun lien avec le milieu carcéral. Vraiment, enfin, vous non plus, mais j'avais pas du tout accès à la prison. Mais j'avais accès à Internet. Et j'ai pu regarder des dizaines de témoignages filmés et écrits de prisonniers qui faisaient des sorties sèches, comme Vincent, sans aide de l'État.
Sorties sèches, vous savez ce que c'est?
Non, j'aimerais le savoir.
C'est des sorties sans accompagnement, sans aide de l'État, sans accompagnement psychologique et sans aide financière.
C'est-à-dire qu'ils sortent, ils ont rien.
Ils sont livrés à eux-mêmes et...
60 euros dans la poche et basta.
Exactement. En fait, ils sortent avec ce qu'ils avaient quand ils sont rentrés. Donc, pour la plupart du temps, rien. Et j'ai trouvé ça. Et je voulais vraiment m'intéresser à ce type de sortie-là. Et j'ai eu la chance d'avoir Internet pour pouvoir rencontrer virtuellement ces prisonniers. J'ai pas eu la chance de les rencontrer réellement, mais Internet m'a beaucoup aidé là-dessus et les écouter parler, les regarder bouger, ça m'a beaucoup aidé pour construire le personnage de Vincent.
On va reparler de ce film dans quelques instants. Denis Arcand, je sais que vous êtes sensibilisé politiquement, on le savait depuis le départ, avec des documentaires engagés à l'époque, même dans la fiction, il y avait quelque chose d'engagé. Aujourd'hui, comment vous regardez ce qui se passe, notamment en France, notamment le climat social que l'on vit? Est-ce que c'est quelque chose dont on entend parler quand on on est au Québec et au Canada.
Oui, bien sûr, c'est aux nouvelles tous les week-ends.
On voit donc Paris.
On voit dans Paris les gilets jaunes, les casses, des choses comme ça. On voit ça tout le temps, mais c'est loin de chez nous, donc c'est difficile pour nous. C'est très, très difficile de porter un jugement et de savoir exactement ce qui se passe. On est un peu informé, mais pas tant que ça. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il y a un mouvement, il y a un grondement populaire qui s'exprime de toutes sortes de façons dans la plupart des pays occidentaux. Moi, j'ai l'impression que c'est la même chose que le Brexit. C'est la même chose que les gens qui ont voté pour Trump, qui sont pas tous des gens d'extrême droite. C'est des ouvriers du Midwest américain qui ont perdu leurs usines, qui ont été délocalisés en Asie. Ils sont victimes de tout. Ils savent pas quoi, ils savent pas comment, ils savent pas à quel sein se vouer. Ils disent, tiens, on va voter pour Trump, au moins on va les emmerder. Le Brexit, c'est la même chose. C'est pas nécessairement des gens qui détestent l'Europe, c'est pas ça, c'est juste ah oui, Bruxelles avec leurs règlements, on n'en peut plus, on veut pas, etc. C'est pas la superstructure britannique qui veut se séparer, c'est les hauts fonctionnaires britanniques et les autres, ils savent bien que c'est profitable, et tous les présidents de compagnie, c'est la même chose, mais dans le peuple, il y a ça, puis j'ai l'impression que les gilets jaunes, le peu que j'en sais, c'est un peu ce même genre de phénomène-là, ça, on sait pas ce qu'ils veulent.
Et au Canada, il y a des mouvements comme ça en ce moment?
Pas trop, mais le Canada, c'est pas un bon exemple parce que c'est un pays nordique.
Ouais.
Et dans les pays nordiques, vous comprenez, on ne peut pas manifester entre le 1er décembre et le 1er c'est avril vrai. Parce qu'il fait moins 30. Alors si vous regardez tous les pays nordiques dans le monde entier, en général, c'est des pays un peu calmes parce que il y a des périodes où il peut plus vraiment se passer rien parce que vous pouvez pas sortir. Donc ça fait une espèce de climat différent.
Alors je vous parlais de cette dimension sociale parce que moi quand j'ai regardé la chute de l'Empire américain, j'ai pensé à un autre film que vous aviez fait il y a très longtemps. C'est longtemps, dans les années 90, qui était Joyeux Calvaire.
Ah, vous avez vu ça, vous? Formidable, ouais. Extraordinaire.
J'avais vu, moi,
vous
à l'époque.
Vous avez vu ça?
Ouais, je l'avais vu.
Ah, non, vous êtes exceptionnel.
Et je me demandais s'il y avait un rapport entre ce film et Joyeux Calvaire.
Et bien sûr, un rapport direct. Dans le sens où Joyeux Calvaire, c'est un des rares films qui m'est tombé dans les bras par hasard parce que c'est le directeur des programmes à Radio-Canada. C'était un film qui a été fait pour la télé.
Ouais.
Et le directeur des programmes a téléphoné en disant, il y a une dame qui est venue nous porter des notes où c'est juste des anecdotes de SDF.
De SDF,
qui
c'est dans le milieu des sans-abri.
Ouais. Qui racontent leur vie, parce qu'elle était bénévole. Et donc, elle allait servir la soupe le midi, s'occuper des repas, des choses comme ça. Et elle a fait ça pendant 10 ans, 15 ans. Et des fois, les gens lui racontaient des anecdotes, des épisodes de leur vie, etc. Puis quand elle entrait chez elle le soir, elle écrivait ça. Puis à un moment donné, elle a compilé tout ça, puis elle est allée porter ça au directeur des programmes de Radio-Canada, qui lui dit, ben, il n'y a pas de structure, il n'y a rien, c'était une série d'anecdotes. Et il m'a téléphoné en me disant, écoute, il y a un truc invraisemblable qui m'est tombé dans les bras. Veux-tu lire ça? Alors, j'ai lu ça, puis je me suis dit, mais c'est impossible, il n'y a pas de film, c'est juste des anecdotes. Mais deux jours plus tard, genre, je lui ai dit, c'est impossible, on ne peut pas rien faire avec ça. Puis deux jours plus tard, ça me hantait. Et je lui ai dit, écoute, je vais me débrouiller, je vais trouver une façon de faire un film avec ça. Et puis là, j'ai rencontré la dame, puis avec elle, en travaillant avec elle, et après, elle m'a amené dans les foyers, les divers foyers à
Montréal.
J'imagine
bien que vous êtes allé vous documenter sur place.
Et là, j'ai parlé avec des gens, elle en connaissait, elle m'en a présenté, j'ai recueilli moi-même des tas de témoignages et tout ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai été genre super conscientisé de ça. Et ça m'est toujours resté, etc.
Et alors, quel rapport avec la chute, alors?
Et c'était pas venu. Mais parce qu'ils sont présents partout dans la chute. Ouais, on les voit, ils sont là, ils sont par terre, etc. et tout ça. Donc, c'était la suite de ça. J'avais jamais pu mettre cette expérience-là dans mes films de fiction parce que jusque-là, je parlais d'autre chose. Et là, tout d'un coup, le fait de parler d'argent, je me suis dit, si on parle d'argent, il faut parler des gens qui en ont trop et des gens qui en ont pas. Qui en ont pas du tout. Qui dorment par terre à la pluie. Donc, voilà.
Une fiction travaillée par des années de documentaire, c'est La chute de l'Empire américain, sortie en salle mercredi prochain. Vous restez avec nous, Denis Arcand. On va parler encore prison avec Nathan Ambrosioni dans quelques instants. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter Clara Luciani, sacrée révélation scène des dernières victoires de la musique, avec ce titre « Nu ».
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle celle dont j'ai l'air. Souvent je change.
Luciani nue dans le NRV, mais habillée en concert. Ce sera à l'Olympia à Paris le 12 avril, au Printemps de Bourges le 19 avril prochain.
Vincent, excuse-moi.
France Inter.
J'ai été surprise là, t'as débarqué, je sais pas d'où.
Charles, ne commence pas.
Quoi, commence pas Tu voulais que je dise quoi?
Le nouveau rendez-vous.
Je vous présente Vincent, il vient de sortir de prison, on s'est pas vu depuis un petit moment, 12 ans en fait, c'est ça que tu voulais que je dise? Tu crois que c'est facile à dire?
Je vous présente mon frère, c'est un bon début ça, non? Je vous présente mon frère, Charlie, ça sonne ça.
Laurent Goumard.
Je t'ai mis à ma place 2 minutes.
Une place pas facile pour vos deux personnages, un frère et une sœur au centre de votre premier film, Nathan Ambrosioni. Les Drapeaux de papier, prix du public au festival Premier Plan d'Angers. Vous avez à peine 19 ans, le film est sorti en salle aujourd'hui. Vous êtes allé en salle ce matin, vous vérifiez?
Ouais, ouais.
Ils le font tous.
Vous êtes allé où? J'étais au Hall.
Ouais, bah ouais, c'est là.
La
c'est
salle
là.
De Paris.
Ouais.
Et
alors?
J'étais dans un état très particulier, en même temps malade et en...
Oui, parce que vous avez un rhume carabiné.
Un rhume horrible, mais toute la pression retombe aujourd'hui et en même temps, je me rends pas compte que le film, on va le lâcher, parce que jusqu'ici, j'ai été présent à toutes les projections pour les débats et tout ça.
Ouais.
Et là, ça y est, on peut plus être là pour les spectateurs, et c'est aux spectateurs de se faire leur avis eux-mêmes sur le film, sans qu'on, pas qu'on les influence quand on est là, mais en tout cas, il y a une atmosphère différente.
Ouais. Donc, ça veut dire que vous allez aller sur Allociné, parce que je sais que vous êtes un fou de Allociné pour voir les réactions des gens.
J'essaie, non, il faut pas pour
son propre film.
Alors, j'y vais tout le temps pour les films, pour en regarder, mais là, il faut que je me force parce que je pense que ça peut être un frein
à la
création ou quelque chose. J'ai pas envie en tout cas d'essayer d'écrire le prochain avec l'avis des autres sur le premier.
Vous êtes déjà en train d'écrire le prochain?
Ouais.
Ah, vous n'allez pas mettre 4 ans comme Denis Arcand, alors ça va aller beaucoup plus vite.
C'est pas obligatoire.
J'adore le cinéma et j'ai la chance d'avoir rencontré ma co-scénariste Audrey Diwan qui est formidable et avec qui ça se passe hyper bien.
Vous n'avez pas fait d'école, rien du tout?
Non, du coup les films s'est fait juste après le bac. Et là, le prochain est en cours de lancement. Et il y a celui-là qui sort. Donc, je profite de ça et j'apprends comme ça.
Sur le tas. Les Drapeaux de papier, un film de famille, un film social. Vincent sort de prison. On a expliqué, donc c'est un libéré sec, c'est-à-dire qu'il n'a absolument rien quand il sort de prison. Pas de suivi de n'importe quel ordre. Il retrouve sa sœur qui se dit artiste peintre, mais qui gagne sa vie à la caisse d'un supermarché. Comment peuvent se passer les retrouvailles après 12 ans d'absence? Précarité sociale pour les deux, saute d'humeur pour le grand frère qui manifestement a quelques problèmes psychologiques. Alors comment se reconstruire et construire même une relation? Bande annonce.
Vous avez eu un suivi psychologique pendant votre séjour?
Mon séjour?
T'as besoin d'une chambre? Un endroit pour vivre?
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, j'appelle pour l'annonce que... Mes expériences. Là, vu que je sors de centrale, là, j'attends votre appel, du coup.
Vous aviez des troubles du comportement?
Malade, en fait.
Moi, je suis malade, moi! Moi, je suis malade, moi!
Tu peux pas débarquer de foutre ta merde comme ça?
Tu vois qu'on m'a appris comment fallait faire pour ressembler à quelqu'un de normal?
C'est moi le grand frère, Charlie.
Tu souris?
Les drapeaux de papier, c'est ce que l'on voit dans la chambre de ce jeune homme Vincent quand il rentre chez sa sœur. Quand il arrive chez sa sœur. Les drapeaux de papier, premier film. Alors, généralement, le premier film est toujours très personnel. Et là, il est dans la façon de filmer, mais peut-être pas dans le thème qui est extérieur à vous. Généralement, ça peut être assez autobiographique. Vous, quel rapport avec ce sujet précisément? C'est-à-dire la précarité sociale, une cellule familiale qui explose, le monde de la prison, alors que tout va bien, j'ai l'impression... À part ce rhume.
À part ce rhume, tout va bien. Non, mais il paraît pas si personnel au premier regard, mais en fait, il l'est parce que j'avais 17 ans quand j'ai commencé à écrire et je me posais beaucoup de questions sur la liberté, parce que j'allais acquérir une certaine forme de liberté à mes 18 ans, aux yeux de la loi, aux yeux de j'allais quitter chez mes parents, même s'ils m'ont jamais brimé. En tout cas, il allait avoir une nouvelle forme de liberté. Ça me fascinait, ça me faisait peur, et je suis tombé sur cet article qui était le portrait d'un prisonnier qui faisait une sortie sèche, comme Vincent, sans aide de l'État, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, il parlait de la liberté d'une manière qui m'a vraiment fasciné, et à moindre mesure, j'avais pas vécu tout ce qu'il avait vécu, mais je me retrouvais dans son témoignage. Quand il parlait de ça, la liberté, c'était quelque chose qui devenait matériel pour lui, c'était un objet inatteignable et en même temps très proche de lui. Et je me suis dit, j'ai envie que ce soit le personnage de mon histoire. Et il a 18 ans dans sa tête. C'est ce qu'il dit Vincent, il a pas grandi depuis qu'il est rentré en prison, et ça, c'est, on avait le même âge, et j'ai une sœur qui s'appelle Romane, qui a inspiré Charlie, qui a le même âge que Charlie, qui veut être graphiste comme Charlie et qui galère autant que Charlie parce que c'est pas facile, et elle m'a toujours vraiment inspiré, je l'ai toujours regardé, donc voilà, la relation frère-sœur, et on a filmé dans ma région, on a filmé les lieux que j'ai toujours vus, on a filmé là où j'ai grandi, le milieu social duquel je viens, donc, finalement, c'était
quelque chose
la
de très
précarité. C'était ce qu'il y avait autour de moi. Et donc voilà, finalement, le film est assez personnel dans ce sens-là.
Avant ce premier film, ce premier long-métrage, vous aviez filmé votre sœur, justement, ou fait des films avec des potes
Ouais, j'avais pas filmé ma sœur, mais j'avais fait beaucoup de films avec des amis.
Quel genre de film?
Des films d'horreur. Des films d'horreur qui n'ont rien à voir avec les drapeaux de papier, avec
si.
Beaucoup de sang.
Ça a à voir avec les drapeaux de papier, je vais y revenir, je vais vous dire pourquoi. Des films d'horreur, donc, vous disiez,
beaucoup de sang, mais des films qu'on a fait avec les copains le week-end pour s'amuser et surtout pour apprendre... Parce que j'avais terriblement envie d'apprendre comment on fait du cinéma et qu'est-ce que c'est le cinéma.
Et le film d'horreur est un bon moyen d'apprendre à faire du cinéma. Oui, les trucages,
les effets spéciaux.
Alors, j'allais dire que pour moi, ça n'était pas sans lien avec les drapeaux de papier parce que je pense aux premières scènes. D'abord, les personnages sont filmés très très près.
Ouais.
Mouvement de nuque, les visages sont systématiquement dissimulés au départ, donc il y a un climat anxiogène qui se développe, et en plus on ne sait pas qui sont les personnages, on voit à un moment donné donc cet homme qui sort de prison et qui va espionner une jeune femme chez elle, et il y a toute une dimension de film, en tout cas de thriller ou de film d'horreur qui est dès le départ dans ce film, donc je me suis dit c'est pas si éloigné ça.
Il y a un peu de ça, oui, complètement, et je suis content que vous le voyez parce que c'était vraiment le souhait au début, c'était que Vincent, on ne voit jamais son visage pendant les 10 premières minutes et qu'on se demande quelle relation il entretient avec cette jeune femme qui est en train de danser seule chez elle et qui regarde depuis la fenêtre, et qu'on se demande est-ce que c'est une présence bienveillante ou est-ce que c'est une présence qui ne l'est pas du tout, au contraire. Et il y a un vestige de mon passé horrifique, c'est à un moment un sursaut dans le film, un moment où Vincent fait peur à Charlie, qui fait sursauter la salle quand on avait la première, et ça je me suis dit ok,
là je tiens le coup.
J'ai quelque chose qui m'est resté.
Quels sont les films qui ont pu vous marquer? Je lisais, parce que ça revient dans la presse, et j'en parle parce que Denis Arcand est de la même nationalité, que Mommy de Xavier Dolan avait été un déclencheur pour vous.
Ouais, c'est-à-dire que je regardais que des films d'horreur de mes 12 ans à mes 16 ans. que ça. C'est vraiment, je ne pouvais pas regarder un autre genre de film. Et puis, c'était la fête des mères et le film s'appelait Maman, Mommy. Et je me suis dit, bon, ça fera plaisir à ma mère, on n'est que tous les deux, ça va la faire rire. Parce que je ne connaissais pas le cinéma de Xavier Dolan et je pensais que c'était une comédie dramatique, rigolote. Et donc je suis un peu sur mon téléphone au début du film, je regarde qu'à moitié parce que ça ne ressemble pas à un film d'horreur, ça ne me fait pas peur, du coup bon. Et finalement je suis bouleversé par le film, vraiment au sens littéral du terme, je suis cloué à mon canapé parce que c'était le premier film qui procurait d'autres émotions que la peur que je regardais vraiment, c'est-à-dire que j'avais vu d'autres films,
oui,
mais sans m'intéresser vraiment au cinéma. Et là je me suis dit, ah oui d'accord, en fait on n'est pas obligé de faire peur, on peut aussi faire rire et pleurer les gens au cinéma. Et ça m'a énormément touché. Et c'est en ça qu'il a marqué ma cinéphilie. Et après les films j'ai découvert Terrence Malick, j'ai découvert Jacques Audiard, j'ai découvert Gus Van Sant, j'ai découvert des cinéastes comme ça qui m'ont accompagné pour construire mes 2 ans de cinéphilie, mes 2 dernières années de cinéphilie et de cinéphile. Et ouais, leur cinéma m'a bercé et m'a fait comprendre que la forme était aussi importante que le fond dans un film. En tout cas, je trouve.
Donc le fait de filmer au plus près de vos personnages, ça c'était vraiment une question...
Ça vient aussi de mes références photographiques. J'adore la photographie. Et Nan Goldin, par exemple, c'est une photographe que j'adore.
Et que l'on retrouve dans la couleur, justement, que vous travaillez, dans les rouges, dans les bruns. Ouais.
Ah, je suis content parce que ça a été une énorme source d'inspiration et que ces photos, j'en ai fait un livre de photos pour le tournage. J'avais une centaine de photos d'elle et d'autres photographes et des photos de cinéma. Mais en tout cas, elle était hyper présente dans ma tête et sur le papier pour toute l'équipe. Et je leur disais, il y a des scènes, la scène de Vincent avec Emma, par exemple. J'avais dit à l'équipe, s'il vous plaît, on refait la photo de Nan Goldin après l'amour. Cette photo a beaucoup compté pour moi. Et ouais, filmer les visages, ça vient aussi d'elle. Ça vient aussi de son attachement pour les humains un peu marginaux comme ça. Et qui, moi, me touche aussi beaucoup. Et je me disais, c'est eux qui m'intéressent, c'est eux que j'ai envie de filmer. Donc, la caméra forcément se rapprochait de Charlie Vincent.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Denis Arcand?
Ah, ça m'inspire toutes sortes de belles choses. C'est merveilleux d'être jeune, c'est merveilleux d'avoir. Non, mais c'est extraordinaire.
Puis, comment c'est aussi jeune, ouais.
Non, puis ce que je veux dire, c'est que c'est merveilleux ce qu'il raconte et tous les cinéastes qu'il a découverts maintenant, puis Gus Van Sant, puis tous les autres. Puis j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de... Moi, je ne vois plus beaucoup au cinéma.
C'est vrai?
Mais au départ, non. Mais au départ, il faut avoir mis 10 000 heures d'écoute sur le cinéma. Puis, il faut avoir tout vu. Je veux dire, pas tout... Parce qu'on n'est pas sincère, vous n'allez pas être directeur de cinémathèque dans votre vie, je vous le souhaite. Vous allez rester à faire du cinéma et tout ça, mais il y a un bagage qu'il faut connaître. Comme si vous êtes pianiste de jazz, il faut que vous connaissiez
les
5000 standards que vous pouvez jouer dans tous les tons. Bon, ben c'est pareil au cinéma. Il y a un bagage qu'il faut connaître. Bon, les films d'horreur, faut connaître le néo-réalisme italien, l'expressionnisme allemand. Vous avez du boulot devant vous. les films russes révolutionnaires, le cinéma noir américain, les comédies musicales.
Les blockbusters aussi, c'est très important.
Les blockbusters aussi, ça fait partie de ça, etc. Pour faire un bagage. Puis après ça, là, après, on peut choisir. On peut dire, ben, non, moi, ça m'intéresse moins. Ça, j'y vais pas. Ça, parce que on sait plus... Ça devient plus pointu quand on a tout ce bagage-là en tête, qui est essentiel au départ.
La direction d'acteur, ça vous a fait peur? Parce qu'ils sont excellents.
Ça m'a surtout... J'étais très ému quand ils ont accepté de faire le film. Et c'était des acteurs que j'admirais, dont je connaissais beaucoup le travail. Je me disais, bon, d'accord, donc Noémie Merlant et Guillaume Wiggs vont faire le film. Ouais. J'étais très intimidé et je m'étais préparé comme jamais. J'avais énormément travaillé avant le tournage pour être incollable sur quelconque question qu'ils pourraient me poser. Et finalement, c'est deux humains formidables et ils m'ont fait confiance. Ils avaient envie de faire le même film que moi et ça a été super de travailler avec eux. Au début, je leur disais des choses et puis finalement, très vite, ils ont compris qui étaient Charlie et Vincent. Et ça coulait de sources.
Sans avoir besoin de plus intervenir que ça.
Ouais, voilà, c'est ça. On parlait des silences. Les silences étaient importants. Vincent court après ses émotions, c'est important. Charlie, elle a un truc lunaire, un truc mystérieux où elle vit toujours en pensant au coup d'après, en se disant mais moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais faire pour aider? Qu'est-ce que je vais faire pour comprendre? Et c'était ça les directions principales. Et puis après, c'était surtout improviser avec ce qui est en train de se passer. Si Noémie, tu tombes de ta chaise, si Vincent, tu te prends la porte,
Ça sera
dans la scène, ce sera dans la scène et servons-nous-en.
Les drapeaux de papier, c'est sorti en salle aujourd'hui. Merci Nathan Ambrosioni. Vous restez avec nous, Denis Arcan. Tout de suite, c'est la dernière partie de la première partie du NRV avec Marion Guilbeault.
Bonjour à n'importe où, n'importe quand, pour n'importe qui.
Rendez-vous. Vous êtes des policiers ?
Non, madame, des musiciens.
Les nouveautés musicales du mercredi, non pas du jeudi, parce que demain il n'y aura pas de NRV, je vais l'expliquer tout à l'heure.
D'accord, Laurent, vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. On commence avec un crooner animal, c'est ainsi que se définit Louis Aguilar. Alors, Louis Aguilar, c'est un jeune musicien, il est né à Lille, il était destiné à devenir tatoueur, il en a une sacrée collection sur lui de tatouages, mais voilà, il a suivi une fille jusque dans le Missouri, et puis là, il a eu une révélation, il sera Bob Dylan ou rien, voilà ce qu'il décide. Et alors, entre les balles des rodéos du Midwest et les scènes ouvertes de Brooklyn, il apprend son métier. Il nourrit son inspiration pour les 20 ans à venir avant de rentrer en France, monter son propre projet, Louis Aguilar and the Crocodile Tears. Bah lui aussi, il s'est fait son bagage. Voilà, un premier album, Les Un Rock Lab à l'époque qui le repère, Les Inouïs du Printemps de Bourges, bref, le parcours classique du combattant, sauf que le talent du jeune homme pour écrire des chansons qui restent attire l'attention d'autres artistes aussi divers que Julien Doré, Pomme, Yuxek, avec lesquels il collabore. Et Louis Aguilar commence à exister aussi dans l'Hexagone. Alors après une parenthèse pop avec le duo Weekend d'affaires, ben on est ravis là, de le retrouver aujourd'hui dans un registre folk intimiste vraiment taillé pour lui, pour sa voix de crooner. Aujourd'hui, Louis Aguilar, n'est plus du tout un lonesome cowboy. Il fonde avec des artistes tels que Ashburns, dont je vous ai parlé hier, Palatine. Ils forment une espèce de famille et ils explorent un territoire, un vaste territoire musical qu'est l'Americana, et ils transforment comme ça la France en terre d'accueil.
How many lives for the pictures I take? Travels or jokes, just dishes I make for one. Yeah, sure, I'll come to that little party you're having. I'll make sure to come late, I'll make sure to bring nothing.
Just a Fool, Louis Aguilar, c'est extrait de son nouvel album Oh Boy, qui sort vendredi. Et il sera en concert près de chez vous le 15 mars à Paris, un concert au musée Eugène Delacroix, dans le cadre du Paris Music Festival. Il y a de la musique dans vos films respectifs, elle a une place importante ?
Moi, j'adore la musique. Ouais. J'adore la musique, j'en écoute tout le temps et de tout genre. Il y en a dans mon film et qui ressemble beaucoup à celle que j'écoute, mais c'est plutôt... C'est pas de la musique chantée, c'est... même si c'est très joli, ça, c'est plutôt du... C'est du post-rock, de la musique un peu alternative, composée par un compositeur canadien qui s'appelle Matthew Otto et que j'adore, qui a fait une très belle musique, j'en suis très fier. C'est plutôt de la musique planante, assez douce, qui reflète l'intériorité de Charlie et de Vincent quand ils sont apaisés.
La Valentine de la semaine s'appelle Gemma Ray. Elle est anglaise, mais elle vit à Berlin. Elle, c'est vraiment une musicienne accomplie. Elle chante, elle joue de la guitare, du mélotron, elle signe les arrangements, elle a composé la musique de films. Elle a publié déjà 7 albums, elle a collaboré avec Sparks, avec Alan Vega. Et pourtant, malgré ce très joli CV, elle reste peu connue chez nous. Alors ça va peut-être changer avec son nouvel album Psychogéologie. C'est vraiment un très beau disque de pop rétro, charnel. Gemma Ray, elle est d'ailleurs ce genre de fille à sortir sa robe chinoise à sa guitare Gretsch. Moi j'adore. C'est un disque qui évoque ses voyages, parce que la Miss, elle a bougeotte, elle a traversé les déserts américains, elle a gravi les montagnes de Nouvelle-Zélande, parce que son tropisme à Gemma Ray, c'est le rock, d'accord, mais c'est aussi les rocks, parce qu'elle est fascinée par les pierres, les roches, leur façon de défier le temps tout en le marquant. Elle s'interroge beaucoup sur la place de l'homme dans le paysage. Alors bien sûr, ces voyages-là, c'est aussi le miroir de ce qu'elle traverse intérieurement, avec sa voix magnifique, vulnérable. Elle nous rappelle à quel point nous sommes petits et nos problèmes personnels insurmontable.
I walk on fire.
Death Tapes, c'est extrait du nouvel album de Gemma Ray, Psychogéologie. Ça sort vendredi chez Bronzerat Records et elle est en concert le 27 février au Supersonic à Paris. Enfin, pour clore ces nouveautés nouvelles, feu sur un groupe, Stats, c'est un groupe anglais qui a enregistré la chanson que nous allons écouter le jour de la Saint-Valentin l'année dernière dans un studio londonien. Alors ce groupe, il s'appelle Stats et à la tête de Stats, il y a Ed Seed. Et Ed Seed, c'est le type que vous n'avez sans doute pas remarqué dans l'open space, mais qui lui a transformé son existence dans cet environnement souvent stérile et conventionnel qu'est la vie de bureau en quelque chose qu'il qualifie de funk absurde de bureau. Autour de lui, 5 individus qui jouent sur la spontanéité. Ils ont, en 2 jours de studio l'année dernière, écrit 20 chansons, 20 balles de flipper qui rebondissent entre le rock des années 70, les grooves synthétiques des années 80 et la pop de demain. C'est intemporel, comme en leur temps Talking Heads par exemple. Aux dernières nouvelles, l'inspiration d'Ed Seed est toujours aussi loufoque. Après la vie de bureau, il a exploré le quotidien psychédélique selon lui du futur papa en enregistrant les battements de cœur de son futur enfant dans le ventre de sa mère. My past is such a dump, a landfill of events, where everything used to be, where everything went. I wanna lose it completely, I've got to give it up. I'm gonna lose it absolutely, never to be seen again.
I'm
Lose It, un extrait de l'album Other People's Lives de Stats, qui sort demain chez Memphis Industries, une programmation de Marion Guilbeault. Et le NRV première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes après le journal avec ça.
Nous n'investissons que dans des produits bio et équitables.
Spéculer sur le développement durable?
Non, nous soutenons.
Trop bio pour être honnête, l'arnaque est dans le prêt. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.